par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est un commandement biblique, on le trouve dans l'Épître aux Hébreux. Est-ce que louer Dieu est une démarche constante chez nous? Un réflexe habituel? Un trait de caractère pour lequel nous sommes connus? J'ai le privilège de me réunir régulièrement avec un ami qui est pasteur et lui, c'est quelqu'un qui bénit sans cesse Dieu. Et ce n'est pas artificiel chez lui. Vous savez que ça peut être parfois artificiel chez les gens, pas chez lui. Il loue Dieu constamment parce qu'il est constamment conscient des bienfaits qui découlent de l'Évangile. Et cela devrait être notre cas également si nous sommes croyants. Je cherche mes lunettes et on va tout de suite voir ça dans le psaume 103 que vous avez donc imprimé dans le feuillet, et puis il y a aussi une fiche qui vous fournit le plan du message. De David, que je bénisse le Seigneur, que tout en moi bénisse son nom sacré. Que je bénisse le Seigneur, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le reste du psaume qu'on examinera ensemble, on observe ce que sont ces bienfaits. Prions maintenant afin que l'examen de ces bienfaits nous conduise à louer Dieu. Prions. Un verset tiré du psaume 119. Que mon âme vive et elle te louera et fais que tes ordonnances me soient en aide. Notre Dieu, en ton Père, combien nous te remercions pour ta parole qui suffit pour nous accorder une appréciation des bienfaits qui découlent de l'Évangile. Donne-nous maintenant une appréciation plus profonde de ces bienfaits et que cela nous amène à te louer du fond de notre cœur pour ta grâce immense. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants, il y a quelques-uns dans la salle qui a déjà jeté une pierre dans un étang. Ah, mais super. Et tu as remarqué les cercles qui se manifestent dans l'eau et qui s'élargissent progressivement. Eh bien, ça c'est un peu le déroulement du psaume que nous avons aujourd'hui. David commence dans le psaume 103 par considérer les bienfaits de Dieu à son égard. Puis son cercle s'élargit puisqu'il considère les bienfaits de Dieu à l'égard du peuple de Dieu tout entier. Et puis son cercle s'élargit encore puisqu'il considère les bienfaits de Dieu à l'égard du cosmos tout entier. Et bien que David écrive 1000 ans avant Jésus-Christ, ce psaume s'applique assez directement à nous, moyennant quelques transpositions qui tiennent compte du fait que nous nous situons de ce côté-ci de la croix de Jésus-Christ. Nous pouvons aisément reprendre ce psaume à notre compte. D'abord donc, le premier cercle, les bienfaits de Dieu à l'égard de David, voire à notre égard, à nous qui sommes croyants, individuellement. Lisons les versets 3 à 5. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, qui reprend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il n'est pas sans incidence que le pardon des péchés puisse figurer en tête de la liste des bienfaits. On peut tout avoir, mais si on n'a pas cela, en fin de compte, on n'a rien. Et donc, pour les personnes ici présentes qui n'ont jamais reçu le pardon de leur faute, le moment de régler cela, c'est maintenant. La Bible est très claire sur le fait que le jour vient où Dieu jugera les êtres humains. Et si nous essayons de nous présenter devant Dieu ce jour-là, sur la base de notre propre prestation dans cette vie, nous serons condamnés à des peines éternelles. Car le Dieu qui a créé cet univers, le Dieu auquel nous nous rendrons des comptes, il est absolument pur. Il exige de nous une vie parfaite. Mais le problème, c'est que nous ne parvenons même pas à vivre à la hauteur des exigences que nous nous imposons nous-mêmes, encore moins des exigences que Dieu nous impose. Ne remets pas cela à notre jour. Tourne-toi vers Dieu dans une attitude de soumission humble. Prends la résolution de te détourner de ce qui déplaît à Dieu dans ta vie. Décide de vivre pour Dieu. Et puis dis à d'autres que tu as engagé cette démarche, car ils pourront alors prier pour toi, te soutenir, t'encourager. Tu pourras alors savoir, comme c'est déjà le cas pour tant de personnes rassemblées aujourd'hui, que ta rébellion contre Dieu est derrière toi et réglée. Il n'y a aucune punition qui t'attend lors du jugement, car cette punition est tombée sur le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort sur la croix, Jésus-Christ a agi en substitut pour toi, portant toute la colère que tes fautes provoquent chez Dieu. Et puisque Jésus-Christ est Dieu, est parfait, il était qualifié pour assumer ce châtiment. De plus, 2 jours après sa mort, il est ressuscité d'entre les morts et il fraye ce même chemin pour nous qui lui faisons confiance. Nous aussi, nous avons la perspective de ressusciter d'entre les morts. Et donc, selon les mots du verset 4, Dieu reprend notre vie à la fosse. La mort est vaincue. La perspective de souffrir en enfer est enlevée et remplacé par la joie de la vie éternelle en présence du grand Dieu qui comble les désirs de notre âme. Là, c'est le verset 5. Et cela commence maintenant. Horatio Spafford, Horatio Spafford, avait établi un cabinet d'avocats prospère au milieu du 19e siècle. C'était à Chicago. Et puis, avec son épouse Anna, toute une cascade d'épreuves. Il a perdu un fils qui est mort de la scarlatine. Et puis, ils ont perdu la majeure partie de leurs biens dans le grand incendie de Chicago de 1871. Ensuite, ils ont perdu les 4 enfants qui leur restaient dans un naufrage. Quelle succession d'épreuves. Mais, grand mais, Spafford n'a pas été écrasé par ces épreuves, aussi grandes soient-elles. Pourquoi? Parce que c'était un croyant en Jésus-Christ. Et il savait que son problème majeur et ultime avait été réglé. Ce problème, c'était sa rébellion contre Dieu. Et Spafford a pu parler du bonheur suprême d'être pardonné par Dieu et il a pu fixer les yeux sur la perspective réjouissante du salut ultime. Les bienfaits dont parle ce psaume découlent de ce pardon des péchés. Et parmi ces bienfaits, il y a la guérison physique, verset 3. Pour nous, c'est différent par rapport à l'époque de David, dans la mesure où la guérison n'est pas promise pour l'immédiat, sauf dans certaines circonstances très précises évoquées dans Jacques chapitre 5. Mais nous croyant en Jésus-Christ, nous pouvons être encouragés par la perspective de jouir d'une santé physique parfaite dans la nouvelle création qui arrive. Et en effet, durant ma préparation, j'ai prié pour vous qui souffrez au jour le jour dans votre corps, et je regarde directement dans la caméra juste quelques instants parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas là uniquement pour cette raison-là. J'ai prié afin que ce verset apporte un réconfort particulier. Un peu plus loin dans le psaume, nous lisons « Dieu se souvient que nous sommes poussière. Quelle fragilité. Et pourtant, un corps parfait est en perspective pour celles et ceux dont les péchés sont pardonnés. » Permettez-moi d'attirer votre attention sur deux autres bienfaits que nous trouvons dans le verset 4. La fidélité et la compassion. La fidélité, dans le verset 4, il s'agit de l'amour de Dieu envers nous qui est ferme, inébranlable, indéfectible, garanti par le sang de Jésus-Christ. Notre bon Père Céleste n'approuve jamais nos péchés. Il exige que nous nous repentions de nos péchés. Mais il ne nous lâche pas. Je connais un frère qui, à un moment donné, s'est repenti de certains péchés majeurs. Et puis, tout d'un coup, ce mot « fidélité » est devenu tellement réel et précieux pour lui. Malgré les péchés commis, il savait que Dieu persistait à l'aimer. Et si toi, tu es croyant, tu croyant en Jésus-Christ, les péchés que tu as commis durant la semaine écoulée et qui troublent ta conscience sont réglés. Et grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix, l'attitude que ton Père a envers toi, verset 4, est celle de compassion, comme l'exprime un auteur. La plus grande douceur avec laquelle vous vous traitez vous-même est moindre que celle avec laquelle votre Père céleste vous traite. La tendresse qu'il vous témoigne dépasse la tendresse dont vous êtes capable envers vous-même. Mettons qu'on puisse transformer la fidélité de Dieu envers nous et sa compassion envers nous en un objet. Ce serait quoi? Eh bien, verset 4, une couronne. Dans notre monde qui nous fatigue de l'éternité et de ce qui comptera bien après que ce monde n'existera plus, toi qui es en Christ, tu jouis du statut de quelqu'un qui est couronné. Le message du christianisme n'est-il pas à nous couper le souffle? Et en même temps, il nous donne un nouveau souffle. L'évangile, verset 5, est revigorant, rajeunissant. Verset 5, il renouvelle nos forces. Mais l'ennemi voudrait que nous évitions de réfléchir à tout ça, que nous occupions notre esprit de d'autres des développements dans le monde et ainsi de suite, sans que nous fixions notre attention sur l'Évangile. En revanche, ce psaume nous permet de comprendre qu'il faudrait se discipliner pour se rappeler activement les bienfaits de Dieu qui découlent de l'Évangile. Comment faire pour se souvenir activement du pardon, de la fidélité, de la compassion de notre grand Dieu durant l'année académique qui s'ouvre dans quelques semaines? Pourrais-je suggérer que le meilleur moment pour prendre des décisions concernant l'utilisation de ton temps durant l'année qui va bientôt commencer, le meilleur moment pour prendre des décisions, ça va être cette semaine. Et donc, quels groupes au sein de cette église vont figurer dans ton planning? Groupe de quartier? Senior, ado, homme, femme? Tim Keller nous encourage à prier ainsi à la lumière des 5 premiers versets du psaume que nous étudions ce matin. Seigneur, je confesse que la peur, la colère, l'anxiété et le découragement sont entièrement dus au fait que j'oublie tes bienfaits. Que je ne me souviens plus de tout ce dont tu m'as comblé, ni de ce que tu m'as promis en Christ. Mon intelligence sait que je suis au bénéfice de ton pardon, que tu trouves ton plaisir en moi, qu'une couronne m'est assurée, ainsi qu'un festin, mais mon cœur l'oublie. Pardonne-moi et aide-moi à parler à mon âme jusqu'à ce que ma force soit renouvelée. Question. Lorsque nous prions pour les anciens, sommes-nous conscients de ce que leur ministère a un double foyer? D'un côté, ils sont préoccupés par la santé spirituelle de chaque membre du troupeau. D'un autre côté, ils sont préoccupés par la santé spirituelle du troupeau dans l'ensemble. Et dans notre psaume, David élargit maintenant le cercle pour considérer les bienfaits de Dieu dans la perspective de l'ensemble du peuple de Dieu. Transposé pour nous, cela veut dire tous les croyants de tous les temps et de tous lieux, dont l'Église protestante évangélique de Bruxelles-Wallouée est une sorte d'antenne en miniature. Nous avons considéré les bienfaits de Dieu à l'égard du croyant individuel, de la croyante individuelle. Quels sont les bienfaits de Dieu à l'égard de l'Église? Écoutons la partie suivante du psaume. Le Seigneur agit pour la justice. Il défend le droit de tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux Israélites. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Il n'accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses fils. Le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives, afin de les suivre. Quels sont les bienfaits de Dieu qu'il déverse sur son peuple collectivement? Eh bien, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que ceux qu'il déverse sur les membres individuels de son peuple. On vient de lire le pardon des péchés, la fidélité de Dieu, sa compassion envers nous. C'est là ce qui définit, ce qui constitue l'Église en tant qu'Église. Il est important de le constater. David n'a pas commencé à parler d'autre chose. Il y a toutes sortes de privilèges associés à la vie de l'Église, y compris la musique, les repas, les groupes. Mais le cœur de la vie de l'Église, c'est le pardon des péchés, la fidélité de Dieu, sa compassion envers nous. C'est là ce qui permet à notre communauté si diverse en nationalité, en langue, en arrière-plan, c'est ce qui nous permet de fonctionner de façon unie. Nous qui avons reçu le pardon de nos fautes, nous pardonnons aux autres. Nous qui connaissons la bonté fidèle de Dieu à notre égard, nous faisons preuve de bonté fidèle vis-à-vis d'autres. Nous qui sommes les objets de la compassion de Dieu, nous manifestons de la compassion envers d'autres. Or, je vais vous demander de vous plonger un peu dans l'histoire des Israélites, afin que nous puissions apprécier ces versets à leur juste valeur. Ce qui se situe en arrière-plan de ces versets, c'est l'exode hors d'Égypte et les événements qui ont suivi l'exode. Les opprimés dans le verset 6, ce sont les Israélites en Égypte, le peuple de Dieu. Et Moïse, vous voyez dans le verset 7, était l'instrument entre les mains de Dieu utilisé pour délivrer le peuple face à cette oppression. Vous vous souvenez les enfants des 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte, de la Pâque, de la traversée de la mer des roseaux. Tout cela a eu lieu parce que Dieu avait au préalable fait des promesses à Abraham. Dieu allait rendre son peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer. Il allait leur donner une terre ruisselant de lait et de miel. Il allait leur accorder une relation privilégiée. Lui allait être leur père. Et cette relation privilégiée devait se concrétiser par l'obéissance de la part du peuple, obéissance aux 10 commandements et à toute une série d'autres lois. Et voici ce qui est capital. Que se passe-t-il lorsque les Israélites n'obéissent pas? On peut considérer l'exemple de l'épisode du veau d'or. Le peuple commence à adorer cet objet en or qu'il avait fabriqué. Au lieu d'adorer Dieu, Dieu se met en colère et à juste titre. 3000 personnes sont mises à mort. Mais Dieu ne revient pas sur ses promesses. En effet, Moïse intercède auprès de Dieu en faisant appel à ses promesses. Et il se révèle que ses promesses restent intactes. Comment est-ce possible? Parce que Dieu a le caractère qu'on lit dans le verset 8. Le Seigneur est compatissant et clément, patient, et grand par la fidélité. Voilà les paroles dont Dieu se sert pour se décrire lui-même, juste après l'épisode du veau d'or. Il reste cependant des questions. Comment les promesses faites à Abraham pourront-elles trouver leur accomplissement si le peuple doit lui obéir? La réponse, il faudra qu'il y ait une solution au problème du péché. Or, des épisodes tels que celui du veau d'or reviennent, et la patience de Dieu arrive à son terme et le peuple finit par être déporté en exil, loin de sa terre. Mais Dieu ne revient toujours pas sur ses promesses. Et en fait, il met sur pied une nouvelle alliance. Une alliance qui règle le problème du péché. Une alliance qui pourvoit à la réalisation des promesses faites à Abraham. Une alliance conclue avec qui? Eh bien, vous avez entendu une expression qui est employée à trois reprises dans cette section du psaume. On va voir si les enfants arrivent à trouver cette expression. Allez, on va restreindre un peu la section entre 11 et 17 et on va voir. Donc, c'est une expression qui décrit le peuple de Dieu au sens ultime, mais englobe certaines personnes de l'époque de Moïse qui allaient bénéficier de cette nouvelle alliance, même si la nouvelle alliance allait être établie plus tard. C'est une expression qui est une façon de qualifier encore aujourd'hui, en 2024, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, bénéficiaire de la nouvelle alliance conclue dans le sang de Jésus, se compose de... C'est quoi l'expression? Ceux qui le craignent, c'est ça. Ceux qui le craignent. C'est l'expression qui figure dans le verset 11, dans le verset 13, dans le verset 17. Qu'est-ce que cela veut dire? Craindre Dieu. Cela veut dire se prosterner devant sa majesté dans une soumission humble. Cela veut dire trembler à sa parole. Cela veut dire avoir peur de lui déplaire. Cela veut dire reconnaître la vérité qu'on trouve dans le verset 19. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Il est toujours nécessaire d'obéir à Dieu. Selon le verset 18, il faut obéir au commandement de Dieu. Et cela vaut pour nous aussi, sauf pour le fait extraordinaire que le respect des commandements de Dieu a été pris en charge pour nous par Jésus-Christ. Et donc, lorsque nous obéissons au commandement de Dieu, nous le faisons parce que nous sommes en règle avec Dieu et non pas en vue d'être en règle avec Dieu. Et lorsque nous désobéissons au commandement de Dieu, cela ne remet pas en question notre statut d'enfant de Dieu, pourvu que nous soyons authentiquement de ceux qui le craignent. Le bilan pour nous, c'est que nous pouvons relire cette partie du psaume en ayant à l'esprit la mort de Jésus-Christ sur la croix et en étant conscient de ce que ces paroles s'appliquent à nous de la façon la plus profonde, complète, absolue qui soit. Et oui, c'est époustouflant. Délectons-nous dès maintenant de quelques-unes de ces paroles. Fermons les yeux si cela aide. Je vais lire quelques-unes de ces paroles encore. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. La fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent. Ça veut dire sans fin. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Cela veut dire que nos transgressions sont totalement et définitivement éloignées. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Le fait de changer de local dans quelques semaines peut être l'occasion pour nous de nous interroger sur ce que cela veut dire d'être une église, d'avoir une vie d'église. Voici comment il ne faudrait pas réfléchir. Ah oui, c'est l'une des églises phares à Bruxelles. 5 anciens, évangile au centre, enseignement solide, bien des piliers au sein de l'Église, couple pastoral qui a fait ses preuves, régulièrement des stagiaires, proximité avec les institutions européennes, quartier respectable, Église reconnue par les autorités. Non! Voici comment il nous faudrait réfléchir. Au sein de notre Église, il y a des croyantes et des croyants qui savent qui ne sont pas respectables en eux-mêmes, mais ils connaissent en même temps la réalité merveilleuse de la bonté fidèle de Dieu, qui est aussi forte au-dessus d'eux que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Ils savent que leurs péchés leur sont autant éloignés que l'Orient est de l'Occident. Et cela nous amène à louer Dieu, n'est-ce pas? Nous aurons l'occasion de le faire dans quelques instants, mais juste en avant-première, je me permets de lire quelques paroles que nous chanterons à la fin. Qui peut sonder ce grand mystère? Christ, pour l'Église, s'est livré. Plus vaste encore que l'univers et son amour pour sa mariée. Rebelle, Jésus l'a choisi, son précieux sang l'a racheté, sa bien-aimée il purifie et chérit pour l'éternité. Quel amour si profond, non rien ne le surpasse. Ô Église, célèbre sa glorieuse grâce. Et peut-être qu'au moment de chanter ensemble, tu seras en train de te dire, mais là, le peuple de Dieu qui loue Dieu pour son pardon, pour sa fidélité, pour sa compassion, voilà un avant-goût du monde à venir. Et tu auras raison de penser comme ça. Sauf pour le fait qu'il y a encore un cercle plus élargi auquel il nous faudrait avoir affaire dans ce psaume. Je lirai maintenant les derniers versets et j'aimerais qu'en écoutant, vous vous posiez la question, pourquoi David inclut-il ces versets à la fin? À partir du verset 19. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous, toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Que je bénisse le Seigneur. Nous avons vu lors de la première partie que David parlait des bienfaits de Dieu, du pardon, de la fidélité, de la compassion envers le croyant individuel. Nous avons vu dans la deuxième partie que David parlait des bienfaits de Dieu, du pardon, de la fidélité, de la compassion envers ceux qui craignent Dieu. Et maintenant, dans la dernière partie, est-ce qu'il a changé de sujet? Oui, il est vrai que David appelle maintenant la création à reconnaître que Dieu est roi. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien, précisément, me semble-t-il, parce qu'il n'a pas changé de sujet. Le problème que nous avons en tant que croyants en Jésus-Christ, c'est que notre message est tellement glorieux que nous avons du mal à le communiquer. Voici la réalité que la dernière partie du psaume véhicule, comprise dans la perspective du déroulement du psaume. Le pardon des péchés est tellement remarquable qu'il se répercute sur l'univers tout entier. Déjà dans la deuxième section, David commençait à faire appel au caractère vaste de l'univers. Vous vous souvenez, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Mais ici, il va plus loin. Essayons de le saisir. La mort de Jésus-Christ sur la croix de l'histoire de notre monde. Elle a une portée qui s'étend aux anges, aux étoiles et à tout ce qui respire, voire à tout ce qui ne respire pas. Le dernier livre de la Bible développe cela un peu pour nous. Comme nous le précise le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Un jour, toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve loueront notre Dieu et roi, et le Christ qui partage son trône. Pourquoi? Apocalypse 5. En raison du pardon, de la fidélité, de la compassion manifestée envers nous en Christ. Mais oui, moi je ne prétends pas comprendre tout cela. Mais l'histoire humaine mène au moment où les oiseaux, les poissons et les arbres reconnaîtront la majesté de notre Dieu et le loueront pour son pardon, sa fidélité, sa compassion envers nous qui le craignons. Et puis David clôt le psaume en s'exhortant à nouveau que je bénisse le Seigneur. Difficile de faire autrement. Et au fil des siècles, différents croyants ont essayé de formuler l'expression de leur émerveillement, à l'instar de David, mais en utilisant leurs propres mots. Et voici un de nos devanciers dans la foi. Je ne parviens pas à comprendre ton amour et ta grâce, mon cher Seigneur. De quel genre de miséricorde s'agit-il? De quel genre de promesse? Mon âme se réjouit en toi, mon Dieu. Et mon esprit bénira ton nom à tout jamais. Amen. Et donc, allons-nous être proactifs en nous rappelant les bienfaits de Dieu? J'ai parlé au début de mon ami qui est pasteur et c'est un modèle. À cet égard, moi, je me réjouis d'avance de mes rencontres avec lui. Je pense à un autre ami qui est pasteur et qui a partagé avec moi ce que son épouse lui avait dit en revenant d'un congrès pour des femmes de pasteurs. Il s'agit d'un couple exemplaire. L'épouse avait passé ces quelques jours à un congrès où elle avait entendu pas mal de prédications, d'exposés bibliques, de messages fondés sur la parole de Dieu. Le congrès achevé, elle était rentrée et mon ami, donc le pasteur, lui avait demandé comment le congrès s'était passé. La réponse de son épouse: j'avais oublié. Tellement nos journées dans le ministère sont mouvementées, j'avais oublié à quel point Dieu m'aimait. Et si cela pouvait être le cas pour elle qui est un modèle, cela peut être le cas pour nous toutes et tous. Et donc, disons-le clairement, ce dont nous avons besoin pour la nouvelle année qui s'ouvre bientôt, ce dont nous avons besoin, c'est de revenir constamment à la croix, individuellement, collectivement, et un jour, ce sera même en harmonie avec tous les coins et les recoins de l'univers. Que je bénisse le Seigneur.